Chapitre 13. Éthéocle et Polynice. On ne perd pas toujours son temps en fouillant dans les armoires vides. Cette journée de la Ligue finissait tumultueuse et brillante comme elle avait commencé. Les amis du roi se réjouissaient, les prédicateurs de la Ligue se préparaient à canoniser frère Henri et s'entretenaient, comme on avait fait autrefois pour Saint-Maurice, des grandes actions guerrières de Valois dont la jeunesse avait été si éclatante. Les favoris disaient « Enfin, le lion s'est réveillé !» Les ligueurs disaient « Enfin, le renard a deviné le piège !» Et comme le caractère de la nation française est principalement l'amour-propre, et que les Français n'aiment pas les chefs d'une intelligence inférieure, les conspirateurs eux-mêmes se réjouissaient d'être joués par le roi. Il est vrai que les principaux d'entre eux s'étaient mis à l'abri. Les trois princes lorrains, comme on l'a vu, avaient quitté Paris à franc étrier, et leur agent principal, M. de Montsoreau, allait sortir du Louvre pour faire ses préparatifs de départ dans le but de rattraper le duc d'Anjou. Mais au moment où il allait mettre le pied sur le seuil, Chicot l'aborda. Le palais était vide de ligueurs, le Gascon ne craignait plus rien pour son roi. « Où allez-vous donc en si grande hâte, monsieur le grand veneur ? » demanda-t-il. « Auprès de son Altesse, » répondit laconiquement le comte. « Auprès de son Altesse ? » « Oui, je suis inquiet de monseigneur. Nous ne vivons pas dans un temps où les princes puissent se mettre en route sans une bonne suite. » « Oh, celui-là est si brave, » dit Chicot, qu'il en est téméraire. » Le grand veneur regarda le Gascon. « En tout cas, lui dit-il, si vous êtes inquiet, je le suis bien plus encore, moi. »« De qui ? » ?»« Et toujours de la même Altesse. »« Pourquoi ? Vous ne savez pas ce que l'on dit ?»« Ne dit-on pas qu'il est parti ?» demanda le comte. « On dit qu'il est mort, » souffla tout bas le Gascon à l'oreille de son interlocuteur. « Bah !» fit Montsoreau, avec une intonation de surprise qui n'était pas exempte d'une certaine joie. « Vous disiez qu'il était en route. »« Dame, on me l'avait persuadé. Je suis de si bonne foi, moi, que je crois toutes les bourdes qu'on compte. Mais maintenant, voyez-vous, j'ai tout lieu de croire, pauvre prince, que s'il est en route, c'est pour l'autre monde. »« Voyons, qui vous donne ces funèbres idées ? Il est entré au Louvre hier, n'est-ce pas ?»« Sans doute, puisque j'y suis entré avec lui. » « Eh bien, on ne l'en a pas vu sortir. »« Du Louvre ? Non. Mais Aurilly est disparu. »« Mais ces gens, disparu, disparu, disparu !»« C'est une raillerie, n'est-ce pas, monsieur Chicot ?» dit le grand veneur. « Demandez. À qui ? Au roi. On n'interroge point sa majesté. Bah, il n'y a que la manière de s'y prendre. »« Voyons, dit le comte, je n'ai pu rester dans un pareil doute. » Et quittant Chicot, ou plutôt marchant devant lui, il s'achemina vers le cabinet du roi. Sa majesté venait de sortir. « Où est allé le roi ? » demanda le grand veneur. « Je dois lui rendre compte de certains ordres qu'il m'a donnés. »« Chez monsieur le duc d'Anjou, » lui répondit celui auquel il s'adressait. « Chez monsieur le duc d'Anjou, » dit le comte à Chicot, « le prince n'est donc pas mort. »« fit le Gascon, « mais d'avis qu'il n'en vaut guère mieux. » Pour le coup, les idées du grand veneur s'embrouillaient tout à fait. Il devenait certain que M. d'Anjou n'avait pas quitté le Louvre. Certains bruits qu'il recueillit, certains mouvements de gens d'office lui confirmèrent la vérité. Or, comme il ignorait les véritables causes de l'absence du prince, cette absence l'étonnait au-delà de toute mesure dans un moment si décisif. Le roi, en effet, était allé chez M. le duc d'Anjou, mais comme le grand veneur, malgré le grand désir où il était de savoir ce qui se passait chez le prince, ne pouvait y pénétrer, force lui fut d'attendre les nouvelles dans le corridor. Nous avons dit que, pour assister à la séance, les quatre mignons s'étaient fait remplacer par des Suisses. Mais aussitôt la séance finie, malgré l'ennui que leur causait la garde qu'ils montaient près du prince, le désir d'être désagréable à son Altesse en lui apprenant le triomphe du roi l'avait emporté sur l'ennui, et ils étaient venus reprendre leur poste. Schomberg et d'Épernon dans le salon, Montgiron et Quélus dans la chambre même de son Altesse. François, de son côté, s'ennuyait mortellement de cet ennui terrible doublé d'inquiétude, et, il faut le dire, la conversation de ces messieurs n'était pas faite pour le distraire. Vois-tu, disait Caylus à Maugiron, d'un bout de la chambre à l'autre, et comme si le prince n'eût point été là, vois-tu, Maugiron, je commence depuis 1 heure seulement à apprécier notre ami Valois. En vérité, c'est un grand politique. Explique ton dire, répondit Maugiron, en se carrant dans une chaise longue. Ah, le roi a parlé tout haut de la conspiration, donc il l'a dissimulé. S'il l'a dissimulé, c'est qu'il la craignait. S'il en parle tout haut, c'est qu'il ne la craint plus. Ah, voilà qui est logique, répondit Maugiron. S'il ne la craint pas, il va la punir. Tu connais Valois. Il brille certainement par un grand nombre de qualités, mais sa resplendissante personne est assez obscure à l'endroit de la clémence. Accordé. Or, s'il punit la susdite conspiration, ce sera par un procès. S'il y a procès, nous allons jouir, sans nous déranger, d'une seconde représentation de l'affaire d'Amboise. Ah, beau spectacle, morbleu! Oui, et dans lequel nos places se sont marquées d'avance, à moins que... Voyons, la moins que... À moins que, c'est possible encore, à moins qu'on ne laisse de côté les formes judiciaires à cause de la position des accusés et qu'on s'arrange sous le manteau de la cheminée, comme on dit. Je suis de ce dernier avis, dit Maugiron. C'est assez comme cela que se traitent d'habitude les affaires de famille, et cette dernière conspiration est une véritable affaire de famille. Aurilly lança un coup d'œil inquiet au prince. Ma foi, dit Maugiron, je sais une chose, moi, c'est qu'à la place du roi, je n'épargnerai pas les grosses têtes, en vérité, parce qu'ils sont 2 fois plus coupables que les autres en se permettant de conspirer, ces messieurs se croient toute conspiration permise. Je dis donc que j'en sanglerai un ou deux, un surtout, mais là, carrément. Puis je noierai tout le fretin. La scène est profonde au-devant de Nesle, et à la place du roi, parole d'honneur, je ne résisterai pas à la tentation. En ce cas, dit Caylus, je crois qu'il ne serait point mal de faire revivre la fameuse invention des sacs. Et quelle était cette invention? Demanda Maugiron. Oh, une fantaisie royale qui date de 1350 à peu près. Voici la chose. On enfermait un homme dans un sac en compagnie de 3 ou 4 chats, et puis on jetait le tout à l'eau. Les chats qui ne peuvent souffrir l'humidité ne se sentaient pas plutôt dans la selle qu'ils s'en prenaient à l'homme de l'accident par qui leur arrivait. Alors il se passait dans ce sac des choses que, malheureusement, on ne pouvait voir. En vérité, dit Maugiron, tu es un puits de science, Caylus, et ta conversation est des plus intéressantes. On pourrait ne pas appliquer cette invention aux chefs. Les chefs ont toujours le droit de réclamer le bénéfice de la décapitation en place publique ou de l'assassinat dans quelque coin. Mais comme tu le disais, au fretin, et par le fretin j'entends les favoris, les écuyers, les maîtres d'hôtel, les joueurs de lutte. Messieurs, balbutia Aurilly, pâle de terreur. Ne réponds donc pas, Aurilly, dit François, cela ne peut s'adresser à moi, ni par conséquent à ma maison. On ne raille pas les princes du sang en France. Non, on les traite plus sérieusement, dit Caylus, on leur coupe le cou. Louis XI ne s'en privait pas, lui, le grand roi, témoin monsieur de Nemours. Les mignons en étaient là dans leur dialogue lorsqu'on entendit du bruit dans le salon, puis la porte de la chambre s'ouvrit, et le roi parut sur le seuil. François se leva. Ah, sire, s'écria-t-il, j'en appelle à votre justice du traitement indigne que me font subir vos gens. Mais Henri ne parut ni avoir vu ni avoir entendu son frère. Bonjour, Caylus, dit Henri en baisant son favori sur les 2 joues. Ah, bonjour, mon enfant, ta vue me réjouit l'âme. Et toi, mon pauvre Maugiron, comment allons-nous? Je m'ennuie à périr, dit Maugiron. J'avais cru, quand je me suis chargé de garder votre frère, sire, qu'il était plus divertissant que cela. Fi, l'ennuyeux prince, est-ce bien le fils de votre père et de votre mère? Sire, vous l'entendez, dit François, est-il donc dans vos intentions royales que l'on insulte ainsi votre frère? Silence, monsieur, dit Henri sans se retourner, je n'aime pas que mes prisonniers se plaignent. Prisonnier, tant qu'il vous plaira, mais ce prisonnier n'en est pas moins votre. Le titre que vous invoquez est justement celui qui vous perd dans mon esprit. Mon frère coupable est coupable 2 fois. Mais s'il ne l'est pas, il l'est. De quel crime? De m'avoir déplu, monsieur. Sire, dit François, humilié, nos querelles de famille ont-elles donc besoin d'avoir des témoins? Ah, vous avez raison, monsieur. Mes amis, laissez-moi donc causer un instant avec monsieur mon frère. Sire, dit tout bas Caylus, ce n'est pas prudent à votre majesté de rester entre 2 ennemis. J'emmène Aurilly, dit Maugiron à l'autre oreille du roi. Les deux gentilshommes emmenèrent Aurilly, à la fois brûlant de curiosité et mourant d'inquiétude. « Nous voici donc seuls, dit le roi. J'attendais ce moment avec impatience, sire. Et moi aussi, ah, vous en voulez à ma couronne, mon digne Éteocle. Ah, vous vous faisiez de la ligue un moyen et du trône un but. Ah, allons-vous sacrer dans un coin de Paris, dans une église perdue, pour vous montrer tout à coup aux Parisiens, tout reluisant d'huile sainte. Hélas, dit François, qui sentait peu à peu la colère du roi, votre majesté ne me laisse pas parler. Pourquoi faire, dit Henri, pour mentir, ou pour me dire du moins des choses que je sais aussi bien que vous? Mais non, vous mentiriez, mon frère, car l'aveu de ce que vous avez fait, ce serait l'aveu que vous méritez la mort. Vous mentirez, c'est une honte que je vous épargne. Mon frère, dit François, éperdu, est-ce bien votre intention de m'abreuver de pareils outrages? Alors, si ce que je vous dis peut être tenu pour encourageant, c'est moi qui mens, et je ne demande pas mieux que de mentir. Voyons, parlez, parlez, j'écoute, apprenez-nous comment vous n'êtes pas un déloyal et qui pisait un maladroit. Je ne sais pas ce que votre majesté veut dire, et elle semble avoir pris à tâche de me parler par énigme. Alors, je vais vous expliquer mes paroles, moi, s'écria Henri d'une voix pleine de menaces et qui vibrait à la portée des oreilles de François. Oui, vous avez conspiré contre moi, comme vous avez autrefois conspiré contre mon frère Charles. Seulement, autrefois, c'était avec l'aide du roi de Navarre. Aujourd'hui, c'est avec l'aide du duc de Guise. Beau projet que j'admire et qui vous eût fait une riche place dans l'histoire des usurpateurs. Il est vrai qu'autrefois vous rampiez comme un serpent, et qu'aujourd'hui vous voulez me mordre comme un lion, après la perfidie, la force ouverte, après le poison, l'épée. Le poison, que voulez-vous dire, monsieur? S'écria François, pâle de rage et cherchant, comme cet Éteocle à qui Henri l'avait comparé, une place où frappait Polynice avec ses regards de flamme à défaut de glaive et de poignard. Quel poison! Le poison avec lequel tu as assassiné notre frère Charles, le poison que tu destinais à Henri de Navarre, ton associé, il est connu, va, ce poison fatal, notre mère en a usé déjà tant de fois. Voilà sans doute pourquoi tu y as renoncé à mon égard, voilà pourquoi tu as voulu prendre des airs de capitaine en commandant les milices de la Ligue. Mais regarde-moi en face, François, continua Henri en faisant vers son frère un pas menaçant, et demeure bien convaincu qu'un homme de ta trempe ne tuera jamais un homme de la mienne. » François chancela sous le poids de cette terrible attaque, mais sans égard, sans miséricorde pour son prisonnier, le roi reprit. « L'épée, l'épée, je voudrais bien te voir dans cette chambre, seul à seul avec moi, tenant une épée. Je t'ai déjà vaincu en fourberie, François, car moi aussi j'ai pris des chemins tortueux pour arriver au trône de France. Mais ces chemins, il fallait les franchir en passant sous le ventre d'un million de Polonais, à la bonne heure. Si vous voulez être fourbe, soyez-le, mais de cette façon. Si vous voulez m'imiter, imitez-moi, mais pas en me rapetissant. Voilà des intrigues royales, voilà de la fourberie digne d'un capitaine. Donc, je te le répète, en ruse, tu es vaincu, et dans un combat loyal, tu serais tué. Ne songe donc plus à lutter d'une façon ni de l'autre, car dès à présent, j'agis en roi, en maître, en despote. Dès à présent, je te surveille dans tes oscillations, je te poursuis dans tes ténèbres, et à la moindre hésitation, à la moindre obscurité, au moindre doute, j'étends ma large main sur toi, chétif, et je te jette pantelant à l'âge de mon bourreau. Voilà ce que j'avais à te dire relativement à nos affaires de famille, mon frère. Voilà pourquoi je voulais te parler en tête à tête, François. Voilà pourquoi je vais ordonner à mes amis de te laisser seul cette nuit, afin que, dans la solitude, tu puisses méditer mes paroles. Si la nuit porte véritablement conseil, comme on le dit, ce doit être surtout aux prisonniers. Ainsi, murmura le duc, par un caprice de votre majesté, sur un soupçon qui ressemble à un mauvais rêve que vous auriez fait, me voilà tombé dans votre disgrâce. Mieux que cela, François, te voilà tombé sous ma justice. Mais au moins, sire, mettez un terme à ma captivité, que je sache à quoi m'en tenir. Quand on vous lira votre jugement, vous le saurez. Et ma mère, pourquoi ne pourrais-je pas voir ma mère? Pourquoi faire? Il n'y avait que 3 exemplaires au monde du fameux livre de chasse que mon pauvre Charles a dévoré, c'est le mot. Et les 2 autres sont, l'un à Florence et l'autre à Londres. D'ailleurs, je ne suis pas un émeraude, moi, comme mon pauvre frère. Adieu, François. Le prince tomba, atterré sur un fauteuil. Messieurs, dit le roi en ouvrant la porte, messieurs, monsieur le duc d'Anjou m'a demandé la liberté de réfléchir cette nuit à une réponse qu'il doit me faire demain matin. Vous le laisserez donc seul dans sa chambre, sauf les visites de précaution que de temps en temps vous croirez devoir faire. Vous trouverez peut-être votre prisonnier un peu exalté par la conversation que nous venons d'avoir ensemble, mais souvenez-vous qu'en conspirant contre moi, monsieur le duc d'Anjou a renoncé au titre de mon frère. Il n'y a par conséquent ici qu'un captif et des gardes. Pas de cérémonie. Si le captif vous désoblige, avertissez-moi. J'ai la Bastille sous la main, et dans la Bastille, maître Laurent Testu, le premier homme du monde pour dompter les rebelles humeurs. Sire, sire, murmura François, tentant un dernier effort, souvenez-vous que je suis votre. Vous étiez aussi le frère du roi Charles IX, je crois, dit Henri. Mais au moins qu'on me rende mes serviteurs, mes amis. Plaignez-vous, je me prive des miens pour vous les donner. Et Henri referma la porte sur la face de son frère, qui recula, pâle et chancelant, jusqu'à son fauteuil, dans lequel il tomba. La scène que venait d'avoir le duc d'Anjou avec le roi lui avait fait considérer sa position comme tout à fait désespérée. Les mignons ne lui avaient rien laissé ignorer de ce qui s'était passé au Louvre, ils lui avaient montré la défaite de messieurs de Guise et le triomphe de Henri, plus grand encore qu'il n'était en réalité. Il avait entendu la voix du peuple criant, chose qui lui avait paru incompréhensible d'abord, vive le roi et vive la Ligue. Il se sentait abandonné des principaux chefs qui, eux aussi, avaient à défendre leur personne. Abandonné de sa famille, décimé par les empoisonnements et par les assassinats, divisé par les ressentiments et les discordes, il soupirait en tournant les yeux vers ce passé que lui avait rappelé le roi, et en songeant que, dans sa lutte contre Charles IX, il avait au moins pour confident, ou plutôt pour dupe, ces deux âmes dévouées, ces deux épées flamboyantes qu'on appelait Coconas et La Mole. Le regret de certains avantages perdus et le remords pour beaucoup de consciences. Pour la première fois de sa vie, en se sentant seul et isolé, monsieur d'Anjou éprouva comme une espèce de remords d'avoir sacrifié La Mole et Coconas. Pendant ce temps, sa sœur Marguerite l'aimait, le consolait. Comment avait-il récompensé sa sœur Marguerite? Restait sa mère, la reine Catherine, mais sa mère ne l'avait jamais aimé. Elle ne s'était jamais servie de lui que comme il se servait des autres, c'est-à-dire à titre d'instrument, et François se rendait justice. Une fois aux mains de sa mère, il sentait qu'il ne s'appartenait pas plus que le vaisseau ne s'appartient au milieu de l'océan lorsque souffle la tempête. Il songea que récemment encore il avait près de lui un cœur qui valait tous les cœurs, une épée qui valait toutes les épées. Bussy, le brave Bussy, lui revint tout entier à la mémoire. Ah, pour le coup, ce fut alors que le sentiment qu'éprouva François ressembla à du remords, car il avait désobligé Bussy pour plaire à Montsoreau. Il avait voulu plaire à Montsoreau parce que Montsoreau savait son secret, et voilà tout à coup que ce secret, dont menaçait toujours Montsoreau, était parvenu à la connaissance du roi, de sorte que Montsoreau n'était plus à craindre. Il s'était donc brouillé avec Bussy inutilement et surtout gratuitement. Action qui, comme l'a dit depuis un grand politique, était bien plus qu'un crime, c'était une faute. Or, quel avantage c'eût été pour le prince, dans la situation où il se trouvait, de savoir que Bussy reconnaissant et par conséquent fidèle, veillait sur lui, Bussy l'invincible, Bussy le cœur loyal, Bussy le favori de tout le monde, tant un cœur loyal et une lourde main font d'amis à quiconque a reçu l'un de Dieu et l'autre du hasard. Bussy, veillant sur lui, c'était la liberté probable, c'était la vengeance certaine. Mais, comme nous l'avons dit, Bussy, blessé au cœur, boudait le prince et s'était retiré sous sa tente, et le prisonnier restait avec 50 pieds de hauteur à franchir pour descendre dans les fossés et 4 mignons à mettre hors de combat pour pénétrer jusqu'au corridor, sans compter que les cours étaient pleines de Suisses et de soldats. Aussi, de temps en temps, il revenait à la fenêtre et plongeait son regard jusqu'au fond des fossés. Mais une pareille hauteur était capable de donner le vertige aux plus braves, et monsieur d'Anjou était loin d'être à l'épreuve des vertiges. Outre cela, d'heure en heure, un des gardiens du prince, soit Schomberg, soit Maugiron, tantôt d'Épernon, tantôt Caylus, entrait, et sans s'inquiéter de la présence du prince, quelquefois même sans le saluer, faisait sa tournée, ouvrant les fenêtres et les portes, fouillant les armoires et les bahuts, regardant sous les lits et sous les tables, s'assurant même que les rideaux étaient à leur place et que les draps n'étaient point découpés en lanières. De temps en temps, il se penchait en dehors du balcon et les 45 pieds de hauteur les rassuraient. « Ma foi, dit Maugiron, en rentrant de faire sa perquisition, moi j'y renonce. Je demande à ne plus bouger du salon où le jour nos amis viennent nous voir et à ne plus me réveiller la nuit de 4 heures en 4 heures pour aller faire visite à monsieur le duc d'Anjou. C'est qu'aussi, dit d'Épernon, on voit bien que nous sommes de grands enfants et que nous avons toujours été capitaines et jamais soldats. Nous ne savons pas, en vérité, interpréter une consigne. « Comment cela ? Demanda Caylus. « Mais sans doute, que veut le roi, c'est que nous gardions monsieur d'Anjou, et non pas que nous le regardions. D'autant plus, dit Maugiron, qu'il est bon à garder, mais qu'il n'est pas beau à regarder. Fort bien, dit Schomberg, mais songeons à ne point nous relâcher de notre surveillance, car le diable est fin. Soit, dit d'Épernon, mais il ne suffit pas d'être fin, ce me semble, pour passer sur le corps à 4 gaillards comme nous. » Et d'Épernon, se redressant, frisa superbement sa moustache. « Ah, il a raison, dit Caylus. Oh, « Bon, répondit Schomberg, crois-tu donc, monsieur le duc d'Anjou, assez niais pour essayer de s'enfuir précisément par notre galerie? S'il tient absolument à se sauver, il fera un trou dans le mur. Avec quoi, il n'a pas d'armes ?»« Il a des fenêtres, dit assez timidement Schomberg, qui se rappelait avoir lui-même mesuré la profondeur des fossés. » « Les fenêtres, il est charmant, sur ma parole !» s'écria d'Épernon. « Bravo, Schomberg, les fenêtres, c'est-à-dire que tu sauterais 45 pieds de hauteur ?»« J'avoue que 45 pieds, eh bien, lui qui boite, lui qui est lourd, lui qui est peureux comme toi, » dit Schomberg. « Mon cher, dit d'Épernon, tu sais bien que je n'ai peur que des fantômes, ça, c'est une affaire de nerfs. » « C'est, dit gravement Caylus, que tous ceux qu'il a tués en duel lui sont apparus la même nuit. » « Ne rions pas, dit Maugiron, j'ai lu une foule d'évasions miraculeuses, avec les draps, par exemple. »« Pour ceci, l'observation de Maugiron est des plus sensées, dit d'Épernon. Moi, j'ai vu à Bordeaux un prisonnier qui s'était sauvé avec ses draps. »« Tu vois, dit Schomberg. »« Oui, reprit d'Épernon, mais il avait les reins cassés et la tête fendue. Son drap s'est trouvé d'une 30aine de pieds trop court. Il avait été forcé de sauter, de sorte que l'évasion était complète. Son corps s'était sauvé de sa prison et son âme s'était sauvée de son corps. »« Eh bien, d'ailleurs qu'il s'échappe, dit Caylus, cela nous fera une chasse au prince du sang. Nous le poursuivrons, nous le traquerons, et en le traquant, sans faire semblant de rien, nous tâcherons de lui casser quelque chose. » Et alors, mordieu, nous rentrerons dans notre rôle, s'écria Maugiron. Nous sommes des chasseurs et non des geôliers. La péroraison parut concluante, et l'on parla d'autre chose, tout en décidant néanmoins que d'heure en heure, on continuerait de faire une visite dans la chambre de monsieur d'Anjou. Les mignons avaient parfaitement raison en ceci, que le duc d'Anjou ne tenterait jamais de fuir de vive force et que, d'un autre côté, il ne se déciderait jamais à une évasion périlleuse ou difficile. Ce n'est pas qu'il manquât d'imagination, le digne prince, et nous devons même le dire, son imagination se livrait à un furieux travail, tout en se promenant de son lit au fameux cabinet occupé pendant 2 ou 3 nuits par la Mole quand Marguerite l'avait recueilli pendant la soirée de la Saint-Barthélemy. De temps en temps, la figure pâle du prince allait se coller au carreau de la fenêtre donnant sur les fossés du Louvre. Au-delà des fossés s'étendait une grève d'une 15aine de pieds de large, et au-delà de la grève, on voyait, au milieu de l'obscurité, se dérouler la scène, calme comme un miroir. De l'autre côté, au milieu des ténèbres, se dressait comme un géant immobile, c'était la tour de Nesle. Le duc d'Anjou avait suivi le coucher du soleil dans toutes ses phases, il avait suivi, avec l'intérêt qu'accorde le prisonnier à ces sortes de spectacles, la dégradation de la lumière et les progrès de l'obscurité. Il avait contemplé cet admirable spectacle du vieux Paris, avec ses toits dorés à 1 heure de distance par les derniers feux du soleil et argentés par les premiers rayons de la lune. Et puis, peu à peu, il s'était senti saisi d'une grande terreur en voyant d'immenses nuages rouler au ciel et annoncer, en s'accumulant au-dessus du Louvre, un orage pour la nuit. Entre autres faiblesses, le duc d'Anjou avait celle de trembler au bruit de la foudre. Alors il eût donné bien des choses pour que les mignons le gardassent encore à vue, dussent-ils l'insulter en le gardant. Cependant, il n'avait pas moyen de les rappeler, c'était donner trop beau jeu à leur raillerie. Il essaya de se jeter sur son lit, impossible de dormir. Il voulut lire, les caractères tourbillonnaient devant ses yeux comme des diables noirs. Il tenta de boire, le vin lui parut amer. Il frôla du bout des doigts le luth d'oreiller resté suspendu à la muraille, mais il sentit que la vibration des cordes agissait sur ses nerfs de telle façon qu'il avait envie de pleurer. Alors il se mit à jurer comme un païen et à briser tout ce qu'il trouva à la portée de sa main. C'était un défaut de famille, et on y était habitué dans le Louvre. Les mignons entr'ouvrirent la porte pour voir d'où venait cet horrible sabbat, puis, ayant reconnu que c'était le prince qui se distrayait, ils avaient refermé la porte, ce qui avait doublé la colère du prisonnier. Il venait justement de briser une chaise, quand un cliquetis, au son duquel on ne se méprend jamais, un cliquetis cristallin, retentit du côté de la fenêtre, et en même temps M. d'Anjou ressentit une douleur assez aiguë à la hanche. Sa première idée fut qu'il était blessé d'un coup d'arquebuse, et que ce coup lui était tiré par un émissaire du roi. « Ah, traître, ah, lâche !» s'écria le prisonnier, « tu me fais arquebuser comme tu me l'avais promis. Ah, je suis mort !» Et il se laissa aller sur le tapis. Mais en tombant, il posa sa main sur un objet assez dur, plus inégal et surtout plus gros que ne l'est une balle d'arquebuse. « Oh, une pierre, dit-il, c'est donc un coup de faux conneau, mais encore j'eusse entendu l'explosion. » Et en même temps il retira et allongea la jambe. Quoique la douleur eût été assez vive, le prince n'avait évidemment rien de cassé. Il ramassa la pierre et examina le carreau. La pierre avait été lancée si rudement qu'elle l'avait plutôt trouée que brisée la vitre. La pierre semblait enveloppée dans un papier. Alors les idées du duc commencèrent à changer de direction. Cette pierre, au lieu d'être lancée par quelque ennemi, ne lui venait-elle pas au contraire de quelque ami? La sueur lui coula au front, l'espérance, comme l'effroi, à ses angoisses. Le duc s'approcha de la lumière. En effet, autour de la pierre, un papier était roulé et maintenu avec une soie nouée de plusieurs nœuds. Le papier avait naturellement amorti la dureté du silex qui, sans cette enveloppe, eût certes causé au prince une douleur plus vive que celle qu'il avait ressentie. Briser la soie, dérouler le papier, et le lire fut pour le duc l'affaire d'une seconde. Il était complètement ressuscité. « Une lettre, murmura-t-il en jetant autour de lui un regard furtif, et il lut. « Êtes-vous là de garder la chambre? Aimez-vous mieux le grand air et la liberté? Entrez dans le cabinet où la reine de Navarre avait caché votre pauvre ami monsieur de La Mole, ouvrez l'armoire, et en déplaçant le tasseau du bas, vous trouverez un double fond. Dans ce double fond, il y a une échelle de soie. Attachez-la vous-même au balcon, deux bras vigoureux vous raidiront l'échelle au bas du fossé. Un cheval, vite comme la pensée, vous mènera en lieu sûr. Un ami. » « Un ami ! » s'écria le prince. « Un ami ? Ah, je ne me savais pas avoir d'ami. Quel est donc cet ami qui songe à moi ?» Et le duc réfléchit un moment, mais ne sachant sur qui arrêter sa pensée, il courut regarder à la fenêtre. Il ne vit personne. « Serait-ce un piège ? » murmura le prince, chez lequel la peur s'éveillait, le premier de tous les sentiments. « Mais d'abord, ajouta-t-il, on peut savoir si cette armoire a un double fond, et si dans ce double fond il y a une échelle. » Le duc alors, sans changer la lumière de place, et résolu, pour plus de précaution, au simple témoignage de ses mains, se dirigea vers ce cabinet dont tant de fois jadis il avait poussé la porte avec un cœur palpitant, alors qu'il s'attendait à y trouver Madame la reine de Navarre, éblouissante de cette beauté que François appréciait plus qu'il ne convenait peut-être à un frère. Cette fois encore, il faut l'avouer, le cœur battait au duc avec violence. Il ouvrit l'armoire à tâtons, explora toutes les planches, et arrivait à celle d'en bas, après avoir pesé au fond et pesé sur le devant, il pesa sur un des côtés et sentit la planche qui faisait la bascule. Aussitôt, il introduisit sa main dans la cavité et sentit au bout de ses doigts le contact d'une échelle de soie. Comme un voleur qui s'enfuit avec sa proie, le duc se sauva dans sa chambre en portant son trésor. 10 heures sonnèrent. Le duc songea aussitôt à la visite qui avait lieu toutes les heures. Il se hâta de cacher son échelle sous le coussin de son fauteuil et s'assit dessus. Elle était si artistement faite qu'elle tenait parfaitement cachée dans l'étroit espace où le duc l'avait enfuie. En effet, 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que Maugiron parut en robe de chambre, tenant une épée nue sous son bras gauche et un bougeoir de la main droite. Tout en entrant chez le duc, il continuait de parler à ses amis. « L'ours est en fureur, lui dit une voix. Il cassait tout, il y a un instant. Prends garde qu'il ne te dévore, Maugiron. » « Insolent, murmura le duc. « Je crois que votre Altesse m'a fait l'honneur de m'adresser la parole, » dit Maugiron de son air le plus impertinent. Le duc, prêt à éclater, se contint en réfléchissant qu'une querelle entraînerait une perte de temps et ferait peut-être manquer son évasion. Il dévora son ressentiment et fit pivoter son fauteuil de manière à tourner le dos au jeune homme. Maugiron, suivant les données traditionnelles, s'approcha du lit pour examiner les draps et de la fenêtre pour reconnaître la présence des rideaux. Il vit bien une vitre cassée, mais il songea que c'était le duc qui, dans sa colère, l'avait brisée ainsi. « Ouais, Maugiron, cria Schomberg, qu'es-tu déjà mangé que tu ne dis mot? Dans ce cas, soupire au moins, qu'on sache à quoi s'en tenir et qu'on te venge. » Le duc faisait craquer ses doigts d'impatience. « Non pas, dit Maugiron, au contraire, mon ours est très doux et tout à fait dompté. » Le duc sourit silencieusement au milieu des ténèbres. Quant à Maugiron, sans même saluer le prince, ce qui était la moindre politesse qu'il dut à un si haut seigneur, il sortit et, en sortant, il ferma la porte à double tour. Le prince se laissa faire, puis, lorsque la clef eut cessé de grincer dans la serrure, « Messieurs, murmura-t-il, prenez garde à vous. C'est un animal très fin qu'un ours. »